Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Alexia Vidot, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au magazine La Vie, vous avez écrit deux livres, dont ce dernier paru il y a quelques mois, Comme des cœurs brûlants, où l'on découvre des différents portraits d'hommes et de femmes du XXe siècle. Je me suis arrêtée avec tout particulièrement sur ce portrait, cette vie aussi, cette vie et ce caractère fort, on peut dire, de Geneviève Gallois, qui deviendra plus tard bénédictine et se rappeler mère Geneviève. Il se passe un événement particulier. Cet événement se passe dans une chapelle. Et c'est un vendredi saint.
Oui.
Cette date est symbolique, forte. Qu'est-ce qu'elle fait retentir chez vous, journaliste, vous qui avez pris la plume et qui, parmi tous ces portraits d'hommes et de femmes du XXe siècle, vous vous êtes arrêté sur quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas encore canonisé?
Oui, je crois qu'il n'est même pas en voie de béatification. Je ne pense pas.
Vous nous surprenez dans aussi le choix et la sélection de ces différents portraits. Et vous m'avez surpris.
C'est vrai que c'est une femme au caractère de feu, quoi. De quelqu'un qui haïssait la médiocrité, qui en parlait comme de la maladie des bien-pensants. Et donc, elle avait cette colère en elle, cette révolte, cette soif, finalement, de quelque chose d'absolu. Et un certain Vendredi Saint de 1914, c'est pas la mène dans la petite chapelle des bénédictines de la rue Monsieur, qui était assez connue à l'époque. Il y avait beaucoup d'intellectuels et d'écrivains catholiques qui s'y rendaient. Et donc, elle ne sait même pas, en fait, que c'est un Vendredi Saint. Elle débarque et là, elle est mais transpercée, saisie, traversée par le chant des impropères. Donc, ces reproches que le Christ adresse à son peuple qui va le crucifier, en fait. Voilà, ce Christ, ce Dieu qui a tout donné, il dit, mais mon peuple, mais pourquoi, que t'ai-je fait? Et là, Marcel, elle est transpercée, saisie, et elle dit, peut-on passer tranquille et continuer sa vie à côté d'une pareille douleur? Et c'est là que son chemin de conversion commence vraiment, parce qu'elle a été saisie par cette douleur, et elle sent que voilà, qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour elle, jusqu'à la dernière goutte de son sang.
Alors vous qui prenez la plume, vous qui cherchez, qu'est-ce que vous avez trouvé comme perle, justement, particulièrement dans ce parcours de femme, une femme qui était à la fois au fond révolutionnaire,
oui.
Une femme pétillante avec au fond un désir de vérité,
un grand désir de vérité et de justice. Et de justice et de d'absolu, quoi, parce que je pense, voilà, on a tous en nous cette soif d'absolu, cette soif d'infini que parfois le monde écrase, étouffe. Et Marcel, en fait, pourquoi elle était si rebelle? C'est qu'elle n'arrivait pas à étouffer cette soif, en fait. C'était juste pas possible, c'était pas dans son caractère. Et donc, Dieu merci, elle a pu être amenée par la Providence dans cette chapelle. Et puis après, toute sa vie, elle va finalement se rapprocher de plus en plus de ce Dieu qui est amour, de ce Dieu qui est absolu. Et de conversion en conversion, elle va pouvoir s'unir à cet absolu et lâcher toutes ces sécurités, lâcher toutes ces jugements humains, et finalement purifier sa soif d'absolu.
Est-ce qu'elle vous parle, vous, en tant que journaliste, Alexia Vidot, ce portrait? Parce que c'est un choix et c'est votre choix.
Oui, ouais. Alors en tant que journaliste, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'elle écrit très bien. Moi, je conseille les auditeurs à lire ce qu'elle écrit, parce qu'elle a une plume caustique. Enfin, elle l'écrit comme elle caricature, en fait. Il y a quelque chose de parfois un peu cruel, même, où elle épingle les travers et elle n'y va pas de main morte pour épingler la médiocrité des bien-pensants, etc. Donc c'est vrai que j'aimerais bien écrire comme elle, j'avoue. Après, c'est plus une... Enfin, moi, elle me rassure, parce qu'en fait,
est-ce que vous
on se sent proche d'elle.
Est-ce que vous sentez un peu avec quelques points communs
oui,
avec
ce côté...
ce personnage aussi de Marcel qui est rebelle, hein.
Oui, je me sens proche d'elle. Quand même, ouais. Parmi mes sept témoins, lequel m'est le plus proche, c'est Marcel. Et je trouve qu'elle est aussi très rassurante, parce que on se sent proche d'elle quand on a un peu un mauvais caractère, un peu bougon, un peu râleur, un peu rebelle. Voilà, on se dit, malgré tout, Dieu peut passer et Dieu peut faire de ma vie quelque chose de grand et de beau. Donc moi, ça me rassure, parce que parfois, quand on se compare à des saints parfaits, on se sent tout petit. On se dit, non, ça me concerne pas. C'est moi, je suis trop petite, trop pécheur.
Donc là, vous abordez la question aussi de la sainteté, au fond.
Oui. Et ouais. Elle nous montre, en fait, que tout le monde peut avancer sur le chemin de la sainteté.
Alors, elle a eu des moments compliqués, Marcel.
Oui, ouais. Je pense qu'elle a pas rendu la vie facile à ses sœurs.
Elle a dérangé ses sœurs, mais elle a été aussi déplacée, contrariée.
Très contrariée, notamment quand elle rentre au monastère avec cette soif d'absolu, elle décide de ne plus dessiner. Donc pendant 20 ans, elle dit mettre une chape de plomb sur sa soif de création, en fait. Et donc c'est vrai que du coup, comme elle bride une partie d'elle-même, elle n'est pas très heureuse, elle n'est pas accomplie. Et c'est seulement grâce à une rencontre formidable avec
Pierre Morin, un Français.
Non, Pierre Morin, c'est avec Dorothy V. Son nom m'échappe, mais c'est un collectionneur qui a repéré son travail. Et grâce à lui, en fait, elle va se remettre à créer. Et là, elle va remarcher sur ses deux jambes. Jambes de religieuse et jambes de créatrice, quoi, d'artiste.
Elle a besoin de... Oui, et c'est toute la fécondité aussi dans son art de mère Geneviève.
Oui, exactement.
Et puis cette contrariété aussi d'attendre cette profession.
Oui, plus neuf fois la profession. Alors, je pense que les sœurs peuvent comprendre un peu sa peine. Moi, je forcément, je n'ai pas vécu la chose, mais je pense qu'on demande neuf fois de faire profession et que neuf fois, on vous dit non, ça doit être assez déroutant quand même.
Alors, il y a dans tout ce parcours de femme, c'est un parcours de combattant. Oui. L'endurance, c'est la détermination. Et puis, c'est l'amour qui l'appelle.
C'est le combat de la foi dont parle saint Paul dans ses épîtres. Moi, j'aime beaucoup saint Paul. C'est vraiment mon grand copain, mon saint de prédilection. Et il le dit, voilà, la foi, c'est un combat, c'est un pugilat. Et donc, c'est vraiment une bataille redoutable et jusqu'au sang entre le vieil homme qui refuse à mourir et l'homme nouveau qui peine à naître. Et donc Marcel, elle est dans ce combat finalement. Il faut crucifier le vieil homme pour que l'homme intérieur se renouvelle, se fortifie chaque jour jusqu'à devenir un même être avec le Christ. Là, je cite saint Paul, hein, c'est pas moi qui...
C'est un peu que vous citez aussi dans votre ouvrage.
Hein. Oui.
Vous avez vous-même reçu le baptême à l'âge de 20 ans.
20 ans, oui.
Oui, donc... il y a eu un moment et une étape où il y a eu ce choix personnel.
Oui, c'est ça, c'est un choix, effectivement.
C'est un choix.
La foi, c'est à la fois, et c'est d'abord un don de Dieu, un cadeau qui tombe du ciel. Mais comme Dieu respecte infiniment notre liberté, il attend notre consentement. Donc vraiment, la conversion, pour moi, c'est le miracle de la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Dieu est tout puissant, mais il ne peut pas nous forcer à croire en lui, en fait. Il ne peut pas forcer notre main. Il tend la sienne et il attend qu'on la prenne, en fait.
Alors, ce moment de conversion doit avoir, au fond, un cœur disposé. Alors, comment se préparer ? Est-ce qu'il y a réellement une préparation ? Est-ce qu'il y a un moment favorable pour s'ouvrir à ce miracle dont vous parlez, ce miracle de la conversion, Alexia Vido ?
Alors, je pense que oui, il faut que le cœur soit désarmé, d'une certaine manière. Il y a plein de choses qui peuvent désarmer un cœur. Le mien était... en fait, Dieu, je pense, est rentré par la petite porte, enfin, par une petite brèche qui était mon besoin de silence. Moi, à 20 ans, j'étais pas du tout dans une quête spirituelle, en tout cas consciemment, je me rendais peut-être pas compte. J'étais pas dans une quête de sens, mais j'avais juste besoin de silence. J'avais besoin de partir de Paris, du vacarme parisien, de la vie étudiante. J'étais à Sciences Po à l'époque. J'ai juste besoin de faire une pause et je crois que le Seigneur est rentré par cette petite brèche, par mon besoin de silence. Donc peut-être en cela, mon cœur étaient disponibles à cette grâce qui voulait se déverser en moi.
C'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Vous employez aussi ce mot « grâce ».
Grâce, ça me fait penser à un livre que j'ai dévoré cet été, c'est « La grâce » de Thibaut de Montaigu, que je conseille, c'est une merveille. Le romancier raconte sa conversion. Et il parle de la grâce comme cette, je le cite, cette possibilité inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Cette possibilité inouïe d'un contact charnel avec Dieu. Et c'est vraiment ça dont j'ai fait l'expérience au monastère à l'âge de 20 ans. J'ai été en contact charnel avec Dieu. Et la grâce, c'est ça.
Donc ça a été le moment choc pour vous ?
Oui, vraiment choc.
Vous parlez de ce moment choc aussi.
C'est le choc de la rencontre.
De la rencontre.
Oui, c'était à l'âge de 20 ans, l'espace de 3 jours, j'ai rencontré Dieu vivant, le Dieu vivant et vrai. Et il a changé ma vie et il me fait vivre jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il vous fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Il vous fait, au fond, de part aussi votre métier de journaliste, ce travail aussi d'écriture, il vous fait vibrer, au fond. Il vous fait missionner pour lui.
Oui, et brûler. Et je pense que ce feu qu'il a jeté sur la terre de mon cœur, il m'appelle à le elle le diffusait autour de moi à ma petite mesure.
Alors depuis ce fameux jour et ces trois jours de choc et de rencontre vivante avec Dieu, car vous parlez de rencontre et vous précisez vivante avec oui. Dieu, ce cœur brûle toujours autant.
Alors, la vie avec Dieu, c'est une vie de relation. Donc il y a évidemment des hauts et des bas, des moments de plus ou moins grande intimité, évidemment. Au début, j'étais dans le feu de ma conversion. Là, la flamme est toujours là, mais voilà, il y a des moments où c'est un peu plus ténu. Mais c'est d'où l'importance de lire la parole, qui est un manuel de désinstallation et de incroyable, en fait. D'où l'importance de se nourrir au sacrement, à la prière du chapelet, toutes ces choses qui ravivent la flamme. Et aussi la prière de nos frères et de nos sœurs. On a besoin, on ne peut pas être chrétien tout seul. Donc tout ça, ça permet de maintenir la flamme allumée.
Alors on maintient avec vous cette flamme allumée dont vous parlez, et puis on brûle la flamme, on brûle les cœurs. Vous êtes donc auteur de cet ouvrage où on peut vraiment se plonger, dévorer un petit peu, relire aussi tous ces parcours d'hommes et de femmes. On va quitter Marcel Gallois, mais je vais inviter aussi les auditeurs peut-être à découvrir, à être curieux, à être éveillés, en découvrant aussi la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont été parfois héroïque, car déterminé et persévérant. Et persévérant. Alexia Vidou, on se retrouve demain à la même heure. Et merci.